France Musique.
Musique et moi.
Claude Agège.
Priscille Lafitte. France Musique.
Je considère la musique, par son essence, comme impuissante à exprimer quoi que ce soit. Un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature, etc. L'expression n'a jamais été la propriété immanente de la musique. La raison d'être de celle-ci n'a jamais été conditionnée par celle-là. Si, comme c'est presque toujours le cas, la musique paraît exprimer quelque chose, ce n'est qu'une illusion et non pas une réalité. C'est simplement un élément additionnel que, par une convention tacite et invétérée, nous lui avons prêté, imposé comme une étiquette, un protocole, bref, une tenue, et que par accoutumance ou inconscience, nous sommes arrivés à confondre avec son essence. Ce texte est signé d'Igor Stravinsky.
Thank you.
Bonjour Claude Agege.
Bonjour.
Merci de répondre présent à l'invitation de France Musique ce matin et de vous livrer à ce jeu de musique et moi. Vous êtes chercheur en linguistique, professeur au Collège de France et vous venez de publier aux éditions d'Odile Jacob « La musique ou la mort », un titre assez radical. C'est votre premier livre sur la musique, si je comprends bien, Claude Agege.
Il n'est pas exclu que j'en écrive d'autres par la suite, mais je n'en ai jamais écrit jusqu'ici, c'est vrai.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une langue universelle, la langue musicale. Vous avez cité Stravinsky en introduction de cette émission. Vous citez cette phrase « Je considère la musique par son essence comme impuissante à exprimer quoi que ce soit, un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature. L'expression n'a jamais été la propriété immanente de la musique. » Vous écrivez dans votre livre qu'elle est asémantique, la musique. Et pourtant, je vous ai vu vibrer pendant cette valse triste de Sibelius.
Eh bien, c'est parce que ce à quoi elle s'adresse, c'est une partie de notre constitution naturelle d'êtres humains que j'appelle, d'un mot grec que je francise, les prapides. Prapis, prapidos, c'est un mot grec qui signifie les entrailles, ce qui se loge au plus profond de nous et qui est aux antipodes de la raison, du rationnel. La musique s'adresse à ça, aux prapides, c'est-à-dire à nos sources émotives les plus profondes et les plus puissantes. Et à cet égard, Stravinsky a à la fois tort et raison. Il a raison dans la mesure où elle ne s'adresse pas à notre capacité de percevoir un discours ou une rhétorique constituée, elle s'adresse à nos sentiments, à nos émotions, et il a en même temps tort dans la mesure où la musique nous transmet un message extrêmement important et que ce message est suffisant et parle avec assez de précision pour que on ne se trompe pas. Par exemple, l'admirable valse triste de Sibelius que nous venons d'entendre, elle est écrite sur un rythme de valse, c'est-à-dire sur un rythme qui en principe est guilleré, qui permet aux gens de danser, quelquefois de façon effrénée, en particulier un couple de gens qui sont très amoureux l'un de l'autre. Mais lui, il fait, d'une façon contradictoire et un petit peu provocatrice peut-être, Sibelius, une valse triste. Et effectivement, dans cette admirable partition de Sibelius, il y a peu de place pour la gaieté et l'entrain. C'est une valse, c'est-à-dire qu'elle a trois temps. Pam 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 pam. C'est tout à fait un rythme à trois temps que n'importe quel musicien reconnaît, et même quelqu'un qui n'est pas musicien voit tout de suite que c'est un rythme à trois temps. Mais en même temps, c'est une valse triste, c'est-à-dire que elle n'exprime pas du tout de gaieté, d'entrain ou d'épanouissement. Donc c'est un morceau qui fait partie pour moi des chefs-d'œuvre de la musique classique.
Vous avez grandi à Carthage.
Oui.
En Tunisie,
oui.
Claude Agege. Et je crois que vous avez grandi dans une famille de musiciens. Vous allez nous l'expliquer juste après avoir écouté le concerto en ré majeur de Beethoven. On va écouter le troisième mouvement, le Rondo Allegro, dans une interprétation de Yehudi Menuhin avec l'orchestre du Festival de Lucerne dirigé par Wilhelm Furtwängler. Et vous allez nous dire juste après pourquoi vous chérissez cette interprétation.
Thank you.
Claude Agé, je vous ai vu jouer du violon pendant que nous écoutions ce concerto de Beethoven. Qui jouait du violon chez vous, dans votre enfance ?
Eh bien, c'était mon père et moi-même. Et ce concerto, que je vous remercie infiniment d'avoir eu la bonté de me faire entendre, réentendre, a une très grande place dans mon histoire parce que ma mère, qui a le même âge, qui avait le même âge que Yehudi Menuhin, avait une immense admiration pour lui. Bon. C'était un virtuose, c'était évidemment, cela se passait quand j'étais un enfant et un adolescent. Ma mère, hélas, n'a pas connu les autres très grands violonistes, dont Isaac Perelman, donc beaucoup d'autres, dont Ginette Neveu, qui ont interprété ce célèbre concerto, peut-être le plus célèbre, les concertos pour violon et orchestre, mais elle connaissait parfaitement cette version, et elle me l'a fait adorer. Par conséquent, le concerto pour violon et orchestre de Beethoven, interprété par Yehudi Menuhin, quand il était presque encore un petit garçon en culotte, car ça a été un virtuose et un enfant prodige, est quelque chose qui est chez moi, parmi les très très fortes sources d'émotions remontant à l'enfance.
Donc votre père jouait du violon, oui, professionnellement ou amateurs ?
Mes parents étaient tous les deux des semi-professionnels.
C'est-à-dire ?
Ils avaient une profession par ailleurs. Ma mère était prof d'histoire. Mon père était directeur d'une entreprise d'électricité. Mais ils étaient musiciens amateurs et surtout, ils faisaient quelque chose. Modèle familial que j'ai reproduit et que jusqu'à aujourd'hui, je pratique encore. Ils invitaient d'autres musiciens et ils faisaient de la musique de chambre. La seule différence avec mes parents, c'est qu'ils ne se produisaient jamais publiquement, alors que moi, j'ai l'immense culot, quand j'ai réuni mes musiciens, en quatuor ou en quintette, de me produire, après des répétitions toute l'année, chaque 21 juin, dans une salle que nous louons et où nous donnons un concert.
Est-ce qu'on peut revenir dans ces années où vous êtes de l'enfance, le jeune Claude que vous avez été à Carthage, en Tunisie, vous entendiez vos parents jouer régulièrement à la maison ?
Absolument.
C'est votre père qui vous a enseigné le violon ?
Mon père m'a enseigné le violon et il m'a donné un professeur excellent. La Tunisie, comme vous le voyez quand vous regardez une carte, est assez proche de la Sicile. Par beau temps, depuis l'extrémité orientale de la Tunisie, on voit les côtes siciliennes. Il y avait par conséquent énormément d'Italiens qui étaient des Siciliens en fait. Et parmi eux, il y avait deux genres de activités professionnelles. Les uns étaient gens de maison, les autres étaient profs de musique. Et dans ma famille, il y a eu les deux. Ma mère employait des aides ménagers qui étaient italiens et mes parents m'ont donné des professeurs de musique qui étaient également italiens. Et par conséquent, j'ai appris la musique avec mon père d'abord, le violon, mais ensuite et surtout avec un professeur de violon qui était sicilien et qui m'a enseigné tout l'essentiel de la technique violonistique.
Claude Agege, qui jouait cette balade en fa dièse majeure
de Ma mère m'a bercé toute mon enfance avec ça. Elle adorait cette partition. Et par conséquent, non seulement je la connais par cœur, je ne suis pas pianiste, je pianote comme beaucoup de musiciens, mais en plus, elle fait partie de mes sources d'émotions les plus vives et les plus anciennes. Ma mère jouait la balade de Fauré, que Fauré a écrite probablement pour Marguerite Long. Marguerite Long a été une pianiste très célèbre à son époque. Fauré est mort entre 1920 et 1925, enfin dans les premières décennies du XXe siècle. Il a bien connu Marguerite Long. La petite histoire dit donc qu'ils avaient des liens importants et qu'il l'a écrite pour elle. Elle a été la première interprétation de la balade de Fauré. Et ma mère, qui était, je m'excuse de dire, une très bonne pianiste, jouait admirablement cette balade, qui par conséquent pour moi fait partie des musiques qui me transportent et me bouleversent le plus.
Vous aviez un grand piano chez vous ?
On avait un piano à queue. Évidemment.
Et vous avez quel âge à peu près quand elle vous joue cette balade ?
Je devais avoir entre 7 et 8 ans.
À quel moment de la journée, dans quelles circonstances est-ce qu'elle vous jouait ?
N'importe quand. Mes parents étaient des gens très libres qui n'avaient pas de règles strictes de comportement. Et on jouait ça n'importe quand, surtout la nuit, mais également dans la journée. Sur demande, je dirais. Mes frères et sœurs et moi, nous demandions à ma mère de nous jouer les partitions que nous aimions. Et singulièrement, la balade de Fauré, mais également Tristesse de Chopin, un certain nombre d'autres très belles partitions pour piano que ma mère nous jouait volontiers.
Je vous propose qu'on poursuive cette écoute de la balade en fa dièse majeure de Fauré. Jean-Claude Pennetier est au piano ce matin.
Thank you.
Le pianiste Jean-Claude Penthié interprète cette ballade en fa dièse majeur opus 19 de Gabriel Fauré.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Le linguiste Claude Agege est l'invité de Musique et moi ce matin. Est-ce que vous diriez, Claude Agege, que la musique a été votre première langue musicale, votre première grammaire ?
Avant de répondre à votre question, pardonnez-moi, puisqu'on vient d'entendre l'admirable ballade de Fauré, je voudrais dire en deux mots ce que j'en dis à la page 108 de mon livre « La musique ou la mort » qui vient de sortir chez Odile Jacob. Je dis ceci, l'extraordinaire ballade en fa dièse majeure du même Fauré est un poème musical qui dit, ou plutôt souffle à l'âme, avec plus de pénétration qu'aucun poème littéraire, la nostalgie, l'intimité, le trouble charmant devant l'insondable mystère des choses. C'est comme ça que je l'aperçois. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore cette ballade. Alors que Fauré ne faisait pas partie des musiciens les plus pratiqués dans mon enfance. Les musiciens qui étaient pratiqués n'étaient pas les grands compositeurs français de la fin du XIXe siècle, Fauré, Saint-Saëns, César Franck, français ou belge. C'était essentiellement les romantiques allemands. Depuis Bach, enfin avant même le romantisme, c'était Bach, Mozart, Mendelssohn, Schumann, Schubert, Brahms. C'était ça les valeurs fondamentales que j'ai entendues toute mon enfance. La musique française, fin du XIXe siècle, en particulier Fauré, j'ai découvert plus tard, mais avec ravissement, en particulier cette admirable ballade.
Est-ce que vos parents vous amenaient au concert ?
Ah oui, très fréquemment. Tunis était une ville, la Tunisie était un protectorat français, contrairement à l'Algérie qui était une colonie. La Tunisie, comme le Maroc, était un protectorat. Et il y avait une très bonne vie musicale, grâce aux Italiens, très nombreux. Et aussi au fait que, dans cette ville où les Européens étaient nombreux, les gens de la bourgeoisie tunisienne, du reste, eux aussi étaient très attirés et très sensibles à la beauté de la musique occidentale. Ils avaient leur propre musique, naturellement, la musique arabe, la musique orientale, qui était un autre type de musique et de...
Que vous avez écouté, vous aussi ?
Que j'ai beaucoup écouté, que j'ai beaucoup aimé, et qui faisait moins partie de mon éducation, mais qui faisait partie de mon environnement, de mon entourage. J'entendais ça tout le temps, et je l'aimais beaucoup aussi. Et les instruments étaient très différents, comme vous savez. Mais alors, la musique donc française de la fin du XIXe siècle, et notamment de Fauré, c'est une musique que j'ai découverte plus tard, à un moment où ma sensibilité était peut-être un peu plus celle d'un adulte, et non pas, comme pour les partitions précédentes, notamment la valse triste, une sensibilité d'enfant. Permettez-moi de dire deux choses. Les deux partitions qu'on a entendues, pages musicales qui font partie de mes pages préférées, qui m'exaltent, qui me bouleversent jusqu'à maintenant, à savoir la valse triste de Sibelius et la ballade en fa dièse majeure de Fauré, ont été jouées toutes les deux admirablement, mais toutes les deux à un rythme que, si j'étais chef d'orchestre, je n'aurais pas pris aussi lent. J'aurais imprimé à l'orchestre ou au piano un rythme un petit peu plus rapide.
Alors, que dites-vous de cette danse macabre de Saint-Saëns et du rythme que prend Daniel Harding dans cette pièce que vous avez entendu, je crois, enfant, au concert? Vous allez nous raconter tout ça.
Thank you.
Renaud Capuçon au violon, accompagné par l'orchestre du Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, dirigé par Daniel Harding. Claude Agege, est-ce que les tempi pris par Daniel Harding vous convenaient dans cette danse macabre de Saint-Saëns?
Tout à fait. Plus peut-être que les tempi un petit peu trop lents des deux partitions précédentes. Je dois dire que elle parle immensément à mon imagination et me bouleverse toujours autant, parce que, alors même que c'était la musique romantique allemande surtout qui était cultivée dans ma famille, et que j'ai découvert, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup plus tard des musiciens comme Franck et comme Fauré, en revanche Camille Saint-Saëns, qui est de manière tout à fait regrettable, je le dis dans mon livre avec insistance, l'objet d'une espèce de rejet un petit peu snob, comme un musicien de second ordre, pour moi est un très grand musicien, un immense musicien, et alors que c'est la seule partition française que j'ai entendue dans mon enfance, cette audition remonte loin dans ma vie, car mes parents m'ont emmené à l'orchestre, et l'excellent orchestre avec beaucoup d'Italiens et de Français, qui était l'orchestre municipal de Tunis, a interprété assez souvent la danse macabre, qui par conséquent fait partie de mes émois, puisque votre émission s'appelle Musique et moi, mes émois musicaux les plus forts et les plus précoces.
Vous nous avez fréquemment parlé de violon depuis le début de cette émission. Est-ce que vous avez pensé à devenir vous-même violoniste professionnel?
Mais oui, j'ai pensé, j'y ai beaucoup pensé, mais le hasard a fait que je suis devenu un universitaire, que je ne suis plus qu'un amateur en musique, que ce livre, La musique et la mort, que je viens de publier chez Odile Jacob, c'est un livre qu'on ne peut pas dire écrit par un musicologue, car je ne suis pas musicologue, mais c'est un cri de passion et d'amour pour la musique qui fait partie de quelque chose qui m'habite de façon profonde et puissante depuis l'enfance et toujours aujourd'hui, et je suppose encore pour longtemps, si le hasard me prête une longue vie.
Donc, mais à quel moment de votre cheminement personnel est-ce que vous avez renoncé à devenir violoniste?
Eh bien, lorsque je suis entré en Hippocagne, où c'est Louis le Grand, pour préparer Normale Sup.
Donc vous les aviez emménagés à Paris avec votre famille?
C'est ça, c'est ça exactement. Ma mère m'a mis pensionnaire à Louis le Grand. Et à partir de ce moment-là, j'ai focalisé toute mon attention sur la préparation au concours de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm pour devenir un normalien. Et je suis devenu un amateur en musique, mais j'ai continué, avec des amis qui étaient eux-mêmes des musiciens, à jouer énormément à Louis le Grand. Pratiquement tous les dimanches, je jouais de la sonate. Je jouais des sonates de Mozart, de Schubert, de Mendelssohn, de Brahms, de Beethoven. Et je n'ai jamais arrêté de jouer beaucoup de violon jusqu'à maintenant, où je joue au sein du quatuor que j'ai fondé. Mais je suis devenu un amateur.
Mais c'était votre choix de ne pas devenir violoniste professionnel? À ce moment-là, c'était un crève-cœur?
J'ai longtemps hésité. J'aurais beaucoup voulu devenir musicien professionnel, mais la manière radicale dont le directeur du Conservatoire de Paris, lorsque ma mère en a parlé assez timidement, avait rejeté la possibilité pour moi de faire les deux, m'a obligé à me contenter, à me cantonner à un seul. Et la musique est par conséquent devenue pour moi d'activité professionnelle qu'elle devait être, une activité d'amateur jusqu'à maintenant.
Vous êtes donc devenu linguiste, chercheur en linguistique.
Oui.
Un de vos premiers terrains, on peut dire que c'est le Cameroun, ou il y en a d'autres avant?
Oui, le terrain principal a été le Cameroun. J'en ai fait beaucoup d'autres, au Tchad, dans des tribus amérindiennes d'Amérique, en Assam, au nord-est de l'Inde, dans des tribus asiatiques du sud de la Chine, j'en ai fait beaucoup d'autres. Mais ma première mission de terrain a été en Afrique, au centre du plateau de Adamawa, qui, traversé par la Benoué, un affluent du Niger, est la partie centrale du Cameroun.
Donc et vous auriez pu être ethnomusicologue, si je comprends bien?
On peut dire que, d'une certaine façon, oui, j'étais un ethnomusicologue, mais pas de façon professionnelle, en amateur.
Nungka
C'est un enregistrement effectué au Cameroun en 1965 dans la ville de Bafoussam, dans la chefferie Bamoun. Et on entend ici, je vous donne les informations qui figurent sur le livret, on entend un instrument qu'on appelle le mvet, qui est une harpe sitar à quatre cordes tendue sur une tige en bois sur laquelle sont également fixées des calebasses qui font fonction de résonateur. Il y a aussi, on entendait, un racle en bois qui est frotté avec un anneau métallique et des hochets. C'est une musique que vous avez pu vous entendre ?
Je l'ai entendue très fréquemment. J'étais chez les Bamoun, font partie d'une population, sont voisins d'une population qu'on appelle les Bamileke, à l'ouest du Cameroun, la partie anglophone du Cameroun. Et on a parmi eux, notamment chez les Bamoun, mais aussi chez les Bafoussam, chez les Bangangté, chez un certain nombre d'autres tribus, des musiques extrêmement riches, extrêmement variées. Et en particulier pour les instruments, comme on a pu le remarquer, il y a non seulement l'instrument que vous avez cité, mais aussi des balafons, c'est-à-dire des instruments avec une peau qui est tendue comme dans un tambour et une caisse de résonance très forte qui est une calebasse, en effet. Et vous avez pu noter que la percussion a une très grande importance dans cette musique, ainsi d'ailleurs que les trompes, les instruments avant. Donc, je dirais que cette musique d'une population africaine de l'ouest du Cameroun nous met dans un tout autre contexte musical que celui des musiques classiques européennes que nous venons d'entendre, mais qu'elle exprime exactement de la même façon une civilisation, une culture, une relation avec le sonore, avec la beauté du sonore et l'émotion qu'il produit, qui est tout aussi puissante que dans les musiques d'Occident. Autrement dit, les musiques de toutes les communautés humaines, quelles qu'elles soient, qui sont le reflet de la vie et de la culture de ces communautés, sont l'expression d'une émotion puissante. Notre oreille étant, contrairement à notre œil, je voudrais le dire en deux mots, si on compare l'œil et l'oreille, l'émotion produite par une très grande œuvre picturale, architecturale, et l'émotion produite par une œuvre musicale sont différentes, surtout pour une raison, c'est que les ondes sonores pénètrent dans notre corps, car elles arrivent jusqu'au tympan. Alors que, quelle qu'elle soit, l'émotion artistique, même très puissante, provoquée par un admirable tableau ou par une admirable sculpture, ne pénètre pas d'une manière physique dans notre corps. C'est la différence fondamentale entre l'ouïe et la vision.
Vous résidiez dans le nord du Cameroun, je crois.
J'étais au centre.
Au centre.
À Ngaoundéré. Dans le plateau qu'on appelle l'Adamawa.
Vous étudiez quelle langue?
Cette langue s'appelait le mboum.
Et je crois qu'une des musiques qui vous accompagne particulièrement pendant ces années de recherche au Cameroun, c'est une étude en U dièse mineur opus 33 numéro 9 de Rachmaninov.
Oui, elle m'accompagnait au Cameroun, bien que je fusse alors aussi très sensible aux musiques locales.
Mmh.
L'étude en U dièse mineur opus 33 numéro 9 de Sergueï Rachmaninov, c'est une version enregistrée par Gary Grafman.
France Musique, Priscille Lafitte, Musique et moi.
Quel contraste, Claude Agege, entre cette étude tableau de Rachmaninov, ici on entendait la version de Gary Grafman, et la musique de la chefferie Bamoun qu'on entendait précédemment. Ces deux musiques vous ont accompagné?
Ben, elles étaient même contemporaines, parce que quand j'étais au centre de Damawa, au centre du Cameroun, j'écoutais des musiques camerounaises, comme celles qu'on a entendues, avec les instruments classiques, traditionnels, les trompes, les balafons, les caisses de résonance, etc. Et j'écoutais également, sur mon magnétophone, sur mon poste de radio, les musiques européennes qui me plaisaient. Et les deux me plaisaient dans des contextes différents. Par conséquent, pour moi, ces musiques exprimant chacune une vision du monde de communautés humaines différentes sont toutes aussi enracinées dans un terreau culturel et aussi belles et aussi parlantes les unes que les autres, quelles qu'elles soient.
Vous aviez emporté avec vous des cassettes ?
J'avais évidemment emporté des cassettes avec moi, des CD, et j'avais la possibilité d'écouter autant que je le voulais de musique européenne. Mais comme je me trouvais au centre du Cameroun, naturellement, je n'allais pas fermer mon oreille aux productions musicales locales qui m'intéressaient aussi immensément, avec seulement cette différence, c'est qu'elles n'appartenaient pas à ma formation depuis mon enfance.
Bien sûr.
J'ai découvert comme adulte.
Vous vous êtes longuement intéressé tout au long de votre vie, Claude Agege. La hiérarchie des langues entre elles, certaines qui s'imposent plutôt que d'autres. Est-ce qu'il y a de la même manière en musique, certaines musiques ou certains langages musicaux qui dominent d'autres ?
D'abord, avant de vous répondre directement, sur le problème de la hiérarchie entre les langues, cette hiérarchie n'est pas du tout due à des causes internes. Les langues expriment toutes avec la même puissance, avec la même force, avec la même vérité, le monde extérieur. Et par conséquent, il n'y a aucune hiérarchie, aucune langue n'est supérieure à une autre, ni en capacité d'expression, ni en capacité rhétorique de conviction.
C'est l'usage qui en fait un outil de domination,
non seulement l'usage
mais commercial ou
oui,
l'usage politique.
Et également les statuts économico-politiques des pays qui sont usagers de ces langues. En ce qui concerne la musique, je dirais qu'il y a encore bien moins de hiérarchie, puisque la musique, comme tout à l'heure nous le disions, s'adresse à l'âme et plus particulièrement à ce que j'appelle les prapides, c'est-à-dire nos entrailles, nos sources d'émotions les plus profondes, les plus enracinées en nous. Et il est hors de question de tracer une hiérarchie entre les musiques. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les choix humains, là encore, les choix politiques et économiques, donnent à une certaine musique, notamment celles qui deviennent les hymnes nationaux de certains pays, une sorte de capacité de représentation plus forte. Mais c'est, comme le disait très justement finalement le texte de Stravinsky que nous avons lu au début, qui paraissait provoquant, mais qui sur ce plan est loin de dire des choses inexactes, c'est quelque chose que nos cultures surajoutent à la musique, qui introduit une hiérarchie qui, elle, n'est pas du tout dans les faits de la musique.
Nous avons compris depuis le début de cette émission, Claude Agege, votre goût pour les cordes frottées, notamment
oui,
pour le violon.
Oui, oui.
Mais j'aimerais qu'on écoute un autre instrument à cordes frottées, la lyra, qui est un instrument à archet de l'époque byzantine. Et il y a un enregistrement ainsi qui mêle la viole de gambe et la lyra. Socratis Sinopoulos à la lyra et François Joubert Caillet à la viole de gambe. Et ils improvisent ensemble sur une mélodie de John Dowland. Thank you. Ce sont des thèmes et variations, en quelque sorte, sur le Lacrimea or Seven Tears de John Dowland, Socratis Xenopoulos à la lyra, François-Joubert Caillet et l'ensemble Lacéron, la viole de gambe. Vous classez, vous, Claude Agege, dans votre livre « La musique ou la mort », ces différentes variantes de la même famille, des luttes, des théorbes, de la viole de gambe. C'est une grande famille qui traverse la Méditerranée, en quelque sorte.
Oui, toute l'Europe avait à cette époque une adoration pour ce genre dit d'instrument. En particulier la viole de gambe et le luth. Le luth, on n'imagine pas aujourd'hui où les luthistes ne sont pas des instrumentistes qui occupent le devant de la scène. L'importance immense qu'a eu le luth, qui est une musique de cour dans les cours européennes, toutes les cours d'Europe, depuis avant la Renaissance jusqu'à l'orée de l'époque classique et même au-delà. Bon, eh bien, ce qu'on vient d'entendre, c'est très intéressant parce que il se trouve que John Dowland a été un de ceux qui ont donné au luth, à la viole de gambe et aux autres instruments qui étaient à la mode à l'époque, c'est-à-dire au début du 7e siècle, parce que sa pavane des larmes, elle est de 1615, comme je le dis en page 67 de La musique ou la mort. Il a donné à la mélancolie, à l'élégie, à la plainte, une place qui jusque-là n'était pas aussi importante chez ses contemporains, c'est-à-dire chez des gens comme Adrien Leroy, comme les deux Mercure, Mercure d'Orléans et Mercure d'Angleterre, John Mercure, également Ockeghem et d'autres, Josquin des Prés et d'autres musiciens du 15e et du 16e siècle. Il a donné à l'élégie une importance, on vient de s'en apercevoir particulièrement fort dans ce qu'on vient d'entendre, qu'elle n'avait pas jusque-là. Donc il a élargi, en somme, le répertoire vers des musiques plaintives, moins pratiquées avant lui.
On va y revenir à l'instrument roi. Vous avez une admiration particulière pour Ginette Neveu et pour son parcours. Je vous propose qu'on écoute Tzigane de Ravel par Ginette Neveu. Thank you. Claude Agege, pourquoi est-ce que parmi tous les interprètes, parmi tous les violonistes, Ginette Neveu occupe une place particulière ?
Merci de cette excellente question, je peux très bien y répondre. D'abord, du fond du cœur, vraiment du fond du cœur, tous mes remerciements de nous faire entendre la merveilleuse et tragique Ginette Neveu. Un jour, j'avais 13 ans, j'ai vu mes parents pleurer à chaudes larmes. On venait d'apprendre que Ginette Neveu, à 30 ans, au milieu d'une fulgurante carrière de gloire mondiale, était morte dans un accident d'avion. Le même accident d'ailleurs dans lequel un autre immense personnage dans un tout autre domaine, la boxe, à savoir Marcel Cerdan, champion du monde des poids moyens en boxe, a aussi est mort car il avait pris, le pauvre Marcel Cerdan, le même avion que la pauvre Ginette Neveu. Eh bien, mon émotion a été extrêmement forte et quand on entend Zigane de Ravel jouer comme on vient d'entendre jouer, alors on comprend. Elle était avec une éblouissante technique de la main gauche, tout ce qu'on a pu voir, et un extraordinaire, chaleureux et puissant violon de la main droite, une violoniste, j'allais dire, qui n'a jamais été dépassée. Il est absurde de vouloir établir entre les musiciens une hiérarchie. Zigane de Ravel, comme d'autres partitions qu'il jouait admirablement, ont été jouées par de très grands violonistes aussi. Mais Ginette Neveu, peut-être parce que sa mort tragique accroît encore la capacité d'émotion qu'elle déchaîne chez nous, avait une manière d'interpréter toutes ces partitions absolument unique, et elle fait partie, alors que lorsqu'elle est morte j'étais un adolescent, de mes grandes passions. Ginette est morte en 1949, et à ce moment-là, les progrès de l'acoustique ont été immenses depuis cette époque jusqu'à nos jours. Les façons d'enregistrer les musiciens n'étaient sans aucune commune mesure avec ce qu'on peut faire aujourd'hui. Par conséquent, je suis émerveillé qu'on vienne d'entendre l'extraordinaire puissance et la chaleur de sa main droite, de son violon, et sa technique éblouissante de la main gauche, avec une telle clarté, ça me surprend beaucoup.
Alors je vous invite à écouter la série d'émissions qu'avait faite Marine Achich l'an dernier pour... Les 100 ans de Ginette Neveu, c'était sur France Musique l'été dernier. Elle avait fait consacrer une très belle série, précisément à Ginette Neveu et à tous ces enregistrements-là. Claude Agege, il y a une passion musicale dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant, c'est celle de l'opéra, car la musique peut être chantée et donc avoir du sens. La langue peut se marier avec la musique. Vous l'appréciez lorsqu'elle est surtout chantée en français?
Dans toutes les langues. Lorsque j'entends Don Giovanni chanter en italien, quand j'entends Die Zauberflöte, la flûte enchantée, chanter en allemand, comme Mozart l'a écrit, quand j'entends Boris Godounov chanter en russe, je suis émerveillé dans tous ces cas. Et en particulier, merci de l'avoir dit si clairement, beaucoup mieux que je pourrais le faire moi-même finalement. Contrairement à ce que l'on prétend quelquefois, les deux modes d'expression différents que sont les mots d'une part et les notes de la musique d'autre part se marient avec une extraordinaire harmonie dans l'opéra. Il n'y a aucune espèce de contradiction entre les deux. Donc l'opéra est un genre mariant les paroles et les notes qui a toujours été, parce que mes parents m'y ont initié depuis que j'étais un petit enfant. J'ai adoré, j'ai entendu Faust quand je vais avoir 6 ou 7 ans. J'ai adoré Faust depuis mon enfance et de Faust, bon c'est un opéra français, je considère Gounod qui n'est pas cité comme un immense compositeur, au moins pour Faust, comme un homme de génie. Exactement comme Bizet, qui n'est pas cité comme un immense compositeur, et pour Carmen, sans aucune l'ombre d'un doute, un homme de grand génie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et même Saint-Saëns pour Samson et Dalila. Enfin bon, c'est dire que l'opéra est pour moi un genre musical ou discursivo-musical qui est générateur de très vives et très fortes et bouleversantes émotions. J'adore l'opéra.
Nous allons écouter le ténor Benjamin Bernheim dans un des airs de Faust de Gounod et on va goûter ensemble la diction très précise de Benjamin Bernheim. Thank you. Nous n'avons pas le temps d'écouter tout l'opéra ensemble, mais qu'est-ce que vous pensez de la diction de Benjamin Bernheim, Claude Allège ?
Remarquable. Il est de quelle nationalité ?
Il est français.
Bon, sa diction est parfaite. Avec simplement quelque chose que nous connaissons bien, dont tout à l'heure j'ai dit un mot, à savoir que le chant déforme un tout petit peu les articulations vocaliques. Pas consonantiques, parce que les consonnes sont des obstacles à la voix, mais les voyelles, c'est la voix elle-même, comme indique le mot voyelle, qui est dérivé de voix. Et il est vrai que les mélodies, quelquefois, surtout dans l'aigu, un peu moins dans le grave, peuvent entraîner de petites distorsions de la phonétique. Cela dit, les plus grands chanteurs, je crois, s'en fichent complètement, et que ceux qui vont très loin dans la distorsion n'empêchent pas les gens de les admirer, pour la beauté de la mélodie et la façon dont leur voix la rendent. Car c'est avant tout les instruments de musique, le premier instrument de l'histoire, que sont les voix humaines qui sont exaltées par l'opéra.
Je vous propose qu'on termine ce Musique et moi ce matin avec vous, Claude Allège, par une voix de baryton. On va complètement changer de tessiture. La voix de Matthias Görne dans le Schwanengesang de Franz Schubert, le chant du cygne, que vous chérissez particulièrement, je crois, en ce moment.
J'aime le Schwanengesang parce que c'est une musique que Schubert, dont la vie était tellement brève, le pauvre malheureux, a écrite à la fin de sa courte vie, et qui me paraît être une sorte de condensation de la plus pure émotion et en même temps de la joie. Et l'histoire de Schubert, quand on connaît sa biographie, c'est exactement ça.
Rauschendes Brechlein so silbern und hell, einzelne Nieten so munter und schnell. Ach, trautes Bächlein, mein Mute, sei froh. Ringe die Grüße des Fernen ihr zu. All ihre Blumen im Garten gepflegt, die sie so lieblich am Rosen trägt, und ihre Rosen in Purpurrot. Mit glühender Flut.
Matthias Goerne et Christoph Eschenbach nous livrent ce message d'amour, Liebesbotschaft, premier des chants du cygne de ce cycle Schwanengesang de Franz Schubert. C'est avec cette mélodie, ce lied de Schubert, que je vous propose que l'on se quitte ce matin. Claude Agege, merci beaucoup d'avoir été l'invité de Musique et moi. Je rappelle votre...
Laissez-moi rappeler que Schubert a écrit dans sa courte vie, d'à peine plus de 30 ans, 620 lieder. Il a eu le temps d'écrire 620, qui sont autant de chefs-d'œuvre. Pardonnez-moi.
Et vous, vous avez eu le temps d'écrire ce livre, La musique ou la mort, premier de vos livres musicaux. J'espère qu'il y en aura d'autres, donc paru chez Odile Jacob. Un grand merci à l'équipe ce matin qui a permis l'enregistrement de cette émission à la Maison de la Radio, Bernard Laniel à la technique, Cyrielle Weber à la réalisation, attachée de production, Marie Ferdinand. Passez une très belle journée sur France Musique et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.